Première partie, le précurseur. Journal de Julien Béraud. Notice. Julien Béraud naît en France, à Lyon, en 2144. Ingénieur attaché au CTO, ingénieur de 2167, donc à 23 ans, jusqu'à 2170, donc jusqu'à 26 ans. Ministre de la Défense dans le second gouvernement Onedi, de mai 2171 à 28 ans à juin 2172, donc pendant un an jusqu'à l'âge de 29 ans. Représentant légal de l'Occident à Madrid, puis à Rome, de 2174, il a 31 ans, à 2179, il a 35 ans. Mort à Naples, en Italie, en 2180, il a 36 ans. Donc, son journal de Julien Béraud, le précurseur. 10 mai 2169. Il est alors au CTO, ingénieur, il a 25 ans. Si mes amis du cercle savaient mon intention de tenir un journal, je ne serais pas quitte avant longtemps de leur sarcasme et ne pourrais rien y rétorquer. Mais je ne crois pas qu'eux-mêmes aimeraient que j'approfondisse certains mobiles de leurs actes. Au moins ces pages resteront-elles secrètes alors que nul n'ignore le goût de John Wrighty pour la drogue ou l'affection que Richard porte aux jeunes arabes. Nul parmi nous, veux-je dire, car s'il nous arrive au cercle d'avouer l'ennui qui nous ronge, je n'envie pas le destin de celui qui le crierait sur les toits. Chacun son vice, règle prime de notre civilisation, la seconde étant qu'en aucun cas le vice ne doit devenir une cause de scandale. Je le déplore quelquefois, sans doute, mais c'est aussi que je ne suis pas américain. Je me nomme Julien Béraud et je suis français, ingénieur français. Ceci compense cela. Les portes du cercle ne se seraient pas ouvertes pour moi. Je ne serais pas reçu aux soirées des Onedi. Note de la lectrice. Quelques années plus tard, Jean Béraud sera ministre dans le gouvernement Onedi. Je ne serais pas reçu aux soirées des Onedi et la belle Paloma ignorerait encore mon existence si, français, je n'étais pas un technicien. J'ai 25 ans, je suis sorti voilà 4 ans de l'école polytechnique de Los Angeles, promotion 2165, et depuis 26 mois, je vis à Tijica. Tijica, je me rappelle cette vieille carte de l'Afrique, retrouvée dans les papiers de mon arrière-grand-père, Paul-Louis Béraud, le paysan. Éditée vers 1930, elle montrait un continent morcelé en petites cases de forme géométrique, chacune d'une couleur différente, la couleur du pays maître. La Libye, verte comme l'Italie. Le Soudan, le Kenya, le Cap, jaune comme l'Angleterre. L'Angola, orange comme le Portugal. Le Congo, noir comme la Belgique. Et presque tout le reste, rose comme la France. Tijica n'y était qu'un point imperceptible au cœur de la Mauritanie et, dans la vérité, me racontait mon grand-père Armand, qui le tenait de son aïeul. Ce n'était autre chose qu'un point imperceptible au milieu du désert. Aujourd'hui, Tijica compte 1 750 000 habitants et sa banlieue lui fait une ceinture verte de 3 kilomètres de largeur. Le désert débute ensuite, c'est vrai. Mais qui va se perdre dans ces sables? L'évolution de l'ancienne bourgade est à l'échelle de l'évolution du monde. On se demande où logeraient les 12 milliards d'humains si les déserts n'avaient pas été récupérés. Et comment l'aurait-il été si les anciennes divisions coloniales n'avaient pas peu à peu cédé devant le mouvement irréversible de la libération des peuples. Aujourd'hui, l'Afrique tout entière est libre, aussi libre que l'Europe et que l'Amérique elle-même. Son complexe politique s'organise dans l'Africatom, siège Dakar, dominant ratio Kabyle et Bantou. Tijika y a rang de 5e circonscription dans les États du Maghreb, province de Mauritanie. J'habite au palais du gouvernement où se tient la triple résidence du préfet berbère El Raï, du conseiller technique Sir Cobb et naturellement du général Onedi, responsable délégué des forces de dissuasion de l'armée occidentale. Ma place dans cette architecture, minime. Mon rôle exact, suppléant au premier assistant de Sir Cobb. Mon rôle, officiellement, établir la liaison entre le Conseil suprême et le complexe technique européen de Bâle. Mais, en réalité, je suis d'abord le neveu du secrétaire français délégué au CTO, complexe technique occidental, car, sans l'accord avoué ou non de la Maison Blanche, nul ne saurait détenir un poste de coordination dans l'un des grands complexes occidentaux. Certes, la Maison Blanche n'a que faire en Afrique, non plus qu'en Europe d'ailleurs. Les peuples libres se gouvernent librement. Mais aujourd'hui, l'avenir et la vie même des peuples libres dépendent de l'aide militaire que Washington leur consent, et contre ce fait, toutes les protestations morales ont peu de poids. Les USA possèdent la puissance. Ce sont des alliés nécessaires. Voilà pourquoi dans tout État occidental se rencontrent des Harold Honeyde. À Lyon, où je fis mes premières études, le Honeyde se nommait Caruso, ou Luigi Caruso, italien de filiation, mais Yankee de naissance. J'ai toujours cru que la mort de mon frère Félix lui était imputable, bien qu'officiellement Félix Béraud ait simplement fait une fugue avant de se tuer dans sa voiture sur la route enneigée de Megève. Un fugueur, un accident, ainsi écrit-on l'histoire. La vérité qu'on n'écrit pas. Félix avouait trop haut ses sympathies pour les républiques occidentales. Il présentait ses rêves d'entente universelle d'une manière trop anarchisante pour qu'il puisse être toléré. J'ai dans l'oreille ces clameurs inutiles, ce jour où les agents de Caruso sont venus se saisir de lui. « Je ne vous connais pas !» hurlait-il. « Je ne veux pas vous suivre !» Et eux, « Alors, vieux sacripant, on ne reconnaît pas les copains ?» Fin du 10 mai 2169, le 15 mai. Cela dit, Onedi n'est pas Caruso. J'ignore s'il est meilleur. Cet homme de 42 ans, le plus jeune général en chef des USA, peut se révéler implacable dès que son ambition se trouve intéressée. Mais il répugne au crime, ou n'y consent qu'après avoir tenté toutes les autres méthodes. On le juge habituellement affable et généreux, d'un raffinement de politesse qui ferait oublier sa race. Ses longs contacts avec les Africains en sont peut-être responsables, puisqu'ils se vantent parfois d'avoir participé à toutes les campagnes qui, en moins de 20 ans, ont pacifié l'Afrique et le sud de l'Europe. Mais je suis mal placée pour en décider, car je lui dois beaucoup. Dans les intrigues de toutes sortes qui sont notre quotidien, plus que jamais, j'ai besoin de son aide. Puis, il y a sa fille, Paloma. Pourquoi j'écris? Ne serait-ce pas seulement pour le plaisir de me parler d'elle, d'épeler librement son nom? Paloma vient de fêter ses 19 ans. C'est une fille superbe et elle le sait. Elle sait aussi qu'au palais, on ne trouverait pas un homme qui ne fût amoureux d'elle, ni même son père, qui ne lui cache pas cette affection. Je pense qu'une jeune fille moins intelligente, élevée dans ce climat d'adulation, serait devenue un monstre d'égoïsme. Paloma, au contraire, toute fraîcheur, tout élan. Je ne connais pas de meilleure réponse aux misogynes qui prétendent que la femme serait un être inférieur, voué par sa nature même à toutes les soumissions. Théorie qu'hier encore, Wrighty, note de la lectrice, John Wrighty, son goût pour la drogue, dit plus haut. Théorie qu'hier encore, Wrighty osait défendre en présence même de la divine. Une réception chez les Honeydy est une fête sans pareil. Vue de la terrasse de leurs appartements, tout au sommet du palais, Tijika s'étale, blanche et verte, géométriquement disposée autour de la grande spire de la Libération. À l'image de ce monument, des formes hélicoïdales se découvrent partout dans un logement vraiment moderne, comme l'est celui des Honeydy. Sièges mobiles, où le corps crée son propre soutien, tables et meubles escamotables par aspiration concentrée, coussins prenants, le tout dans les teintes pastel, mais dans la chambre de Paloma, les couleurs sont vives et dures, à la convenance de son caractère passionné. Nous y étions plusieurs réunis hier soir, John Wrighty, le drogué, le chimiste Coran Verne, Ali El Raï, le fils du préfet, les physiciens Bouli et Patran, et moi-même. Je disais que Paloma représente pour moi le type parfait, l'idéal de la femme libérée, d'une essence supérieure dont les féministes du monde entier se font depuis 2 siècles les annonciatrices. Socialement, dit Bouli, il y a bien plus d'un siècle que les femmes ont conquis les mêmes droits que les hommes. Droit de vote dans tous les pays du monde, droit de divorce permanent, droit de choisir ou de rejeter le partenaire, possession intégrale des biens du patrimoine et des acquêts. Naturellement. C'est, je crois, en 2028 qu'une jeune femme fut pour la première fois élue présidente du Comité central des Républiques d'Orient, mandat résilié au bout de 6 jours, il est vrai. Je citais l'historien Coiffard de son ouvrage « Le XXIe siècle », selon lequel il y eut, dès les premières années du siècle, plus de jeunes filles que de garçons dans les universités et les écoles supérieures d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. Les statistiques, indiscutables, qui l'indiquent, révèlent dès cette date un plus fort pourcentage de femmes que d'hommes, 52-54%, dans les cadres techniques et administratifs d'Orient et d'Occident. Note de la lectrice, l'historien Coiffard parlait du début de notre siècle, imaginé par Pichon, c'est-à-dire du début du XXIe siècle. Righty m'écoutait avec impatience. À peine eus-je terminé mon exposé, il s'emporta. « Cependant, dit-il, il apparaît que dans la plupart des cas, ces femmes d'élite étaient comme condamnées, non seulement au célibat et à tous les désordres sexuels, mais aux troubles psychosomatiques les plus graves. Ce fut d'ailleurs une femme, Marie Sawayan, qui en 2060 fit voter le décret interdisant au sexe faible l'accès à certains postes de direction. Et c'est une autre femme, l'écrivain Anne Rewozek, qui, un peu plus tard, entreprit sa campagne de libération totale en réclamant pour ses consoeurs les pleins droits de la femme et non plus les droits de l'homme. Paloma sembla s'éveiller d'un songe. « Étrange, dit-elle, que ces pleins droits de la femme nous soient reconnus seulement aujourd'hui. Étrange, oui, que nos ancêtres n'aient pas été plus exigeantes. »« Elle l'était, répond Righty. Vous n'avez rien gagné qui n'eût été l'apanage naturel des siècles pendant des millénaires. » L'assertion était grossière et provocante. Tous, nous voulions prendre la parole pour protester. Bouly trouva le mot convenable. « Que savons-nous des millénaires passés ? Une chose, du moins, est sûre. Maintenant, nous avons des femmes. » Il est bien vrai que, si l'on compare nos compagnes et nos amies femmes aux lamentables perches ou aux grosses matrones des siècles précédents, j'en réfère à Buffet et à Renoir, une légitime fierté nous vient d'avoir aidé à l'éclosion d'une mutation enfin réussie. Non seulement nos femmes sont belles, accomplissement de l'antique idéal vénitien, et parmi toutes de Paloma. Je saisis l'occasion de le dire. Mal, je le crains. De très vieux mots, mesure et grâce, seuls rendraient compte de ce qu'elle est. Sévère quand il le faut, et chaste. Audacieuse, érotique, aimable ou passionnée, selon l'exigence du moment, souverainement en accord avec soi-même. Paloma me récompensa par un sourire, puis, avec son tact habituel, elle mit un terme à mes louanges. Si nous parlions d'autre chose, des fêtes de l'amnistie, du prophète Adjoran, le prophète ? Demanda Conrad. Va-t-on également le libérer ? Mais je l'espère bien, cria Paloma. Comme j'aimerais connaître cet homme. Qui est-ce ? Demandai-je, intrigué par la fougue de la jeune fille. Ali El-Raï répondait à notre hôtesse. Le connaître ? Ce ne doit pas être difficile. On m'a rapporté que de sa prison, il ne cesse de correspondre avec les inconditionnels. Son avocat, Oul Boud, leur est sympathisant. Et toutes sortes de visiteurs sont quotidiennement admis à le voir. Naturellement, dit Paloma, nous ne sommes tout de même pas des barbares. Je me plaignais, honteux de mon ignorance. Qu'est-ce que les inconditionnels ? Qui est le prophète ? De quoi s'agit-il ? Bouly ricana. Nous ne nous aimions guère. Voilà le jeune Julien qui se réveille. Dites-lui, Ali, sans quoi il nous désosse toute la soirée. Rien de bien passionnant, monsieur Béraud, dit Ali. Des séquelles, des vieilles traditions autochtones. Vous avez entendu parler de la révolte des sorciers du Tchad ? En 2085, du mouvement chaman de 2108, des itinérants de 2150, les inconditionnels, c'est un peu tout cela, à cette différence près que la plupart d'entre eux ne sont pas des ignorants. Ils ont abandonné les armes pour la parole, les sacrifices initiatiques pour des articles dans des journaux dits d'avant-garde. J'en lisais un la semaine passée, un hebdomadaire guinéen, un incroyable ramassis de divagations astrologiques, chamaniques, fumistiques surtout. Je l'interrompis.